forêt vivante ou désert boisé. Une série de trois émissions de Radio Zinzine sur la relation entre les forêts et le climat. Deuxième partie. Nous voilà de retour aux assises nationales de SOS Forêt qui ont eu lieu les 23 et 24 octobre 2019 au domaine de Villarceau, près de Paris. Comme dans la première partie, nous parlerons de l'impact du changement climatique sur les forêts en France et aborderons la question complexe de savoir comment y réagir le plus intelligemment possible. Savoir s'il faut faire confiance à la nature et aux écosystèmes ou alors prévoir des interventions massives de récoltes et de plantations. C'est la question posée par le rapport « Gestion forestière et changement climatique » présenté aux Assises par Gaëtan Dubus, ingénieur forestier et initiateur du réseau pour les alternatives forestières. Mais pour commencer, écoutons Vincent Magnier, technicien forestier et également membre du réseau pour les alternatives forestières. Il vit sur le plateau de Millevaches, dans le Limousin.
Pour quelqu'un comme moi qui suis souvent en forêt et au contact des forestiers, des professionnels qui travaillent tous les jours en forêt, et puis de mes propres observations, effectivement, en Limousin, c'est clair qu'on observe des changements forts. Moi, les premiers que j'ai observés, les premiers changements, c'est quand je travaillais au parc, c'était sur le hêtre. Au moins 8-10 ans, on a commencé à voir des mortalités très surprenantes sur le hêtre et des déstructurations, des éclatements de houppiers qui cassent en gros morceaux énormes. Et parfois aussi des basculements complets de l'arbre vert en plein été sans vent qui se fait, en fait, quand on regarde la souche, toutes les racines ont été attaquées par un champignon. Donc ça, c'est le premier phénomène, moi, qui m'avait surpris en Limousin et en particulier sur Millevaches. Et après, depuis, du coup, ça m'avait alerté sur être plus vigilant, sur observer de près d'éventuels signes nouveaux d'évolution qui pourraient être liés à des sécheresses, des températures élevées, des manques d'eau, c'est surtout ces paramètres-là qui sont observés, mais pas uniquement. On a aussi de plus en plus souvent, par exemple, on a des automnes très chauds avec du coup une absence de chute de feuilles, en particulier en montagne, c'est vraiment visible. Les feuilles gardent leurs feuilles tard, très tard, jusque parfois fin octobre, voire au-delà. Et on a un basculement de temps d'un seul coup qui amène le froid en 24 heures. Donc on peut perdre peut-être 15-20 degrés d'un coup, et on a la neige qui arrive directement derrière, et là on observe aussi des bris de branches, des quelque chose qui devait exister par le passé mais qui devait être assez anecdotique à l'échelle du siècle, et là on l'observe de manière régulière quoi. Maintenant c'est quelque chose de commun, pas tous les ans mais ça a l'air d'être de plus en plus fréquent. Voilà, et puis cette année là avec les deux canicules qu'on a eues en juin et juillet, des températures exceptionnellement élevées comme dans d'autres endroits de l'Europe hein, mais sur une particularité du Limousin qui est qu'on a des sols très drainants, très sableux, et que donc, dès qu'il pleut plus, l'eau a tendance à s'en aller. On a une faible rétention d'eau des sols. Et ben, on a des peuplements qui souffrent vraiment. Et là, cette année, on l'avait déjà observé. Bon, les épicéas, c'était flagrant. Mais on a aussi observé sur Mélèze des dépérissements, des dessèchements sur Douglas. Les sapins de Vancouver, c'est catastrophique. Et puis, des dépérissements dans les chênes aussi. C'est peut-être un peu plus difficile à observer, mais enfin, on le voit aussi. Et après, avec des effets aussi très forts en bordure des parcelles, hein, les effets de bordure, là, c'est très, très fort. On observe vraiment les arbres qui sont en stress fort. Des mortalités de jeunes semis aussi, qui sont impressionnantes, avec des mortalités d'arbustes, des dessèchements d'arbustes sous couvert forestier qu'on n'observait pas avant, quoi. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, en tout cas en Limousin, là, ça y est, les processus sont vraiment fortement enclenchés et le grand tri des espèces entre celles qui sont à leur place, parce que voilà, elles sont venues là et qu'elles sont adaptées à leur milieu, et celles qui ont été amenées par l'homme, soit plantées, soit amenées par l'homme anciennement, puis régénérées spontanément, mais malgré tout pas à leur place. Et ben celles-là, aujourd'hui, elles sont très fortement remises en cause. Et quelque part, ça vient aussi montrer à la filière bois toutes les bêtises qui ont pu être faites par le passé, là, elles s'expriment fortement, quoi. Donc ça interpelle pas mal de gens, quand même.
Mais tu parles des espèces adaptées, mais on pourrait peut-être aussi se questionner sur la méthode de gestion. Enfin, est-ce que c'est des plantations monoculture? Est-ce qu'il y a quand même, je crois, sur le plateau et en Limousin, il y a quand même des forêts plus, bon, ce que certains appellent plus naturelles ou plus mixtes, peut-être un peu plus anciennes, qui ne sont pas issues de plantations monospécifiques. Est-ce qu'on observe une différence de résilience dans ces différents cas de figure?
Bah là, moi, j'ai pas fait une analyse poussée avec dénombrement statistiques et choses pour pouvoir être très tranché sur cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'on observe des phénomènes dans les deux cas, c'est-à-dire autant en milieu artificialisé, monoculture, qu'en milieu plus de mélange et de d'endroits feuillus, de peuplements feuillus qui sont plus spontanée, où la main de l'homme a intervenu, mais où la nature a quand même un peu plus repris le cours des choses. Mais même dans ces parcelles-là, on observe une pression de sélection et des effets forts du changement climatique. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'endroits qui ne sont pas touchés, mais c'est sûr que les peuplements très artificialisés, très simplifiés, où on n'a que du Douglas ou que du Lipicea ou même parfois que du chêne rouge, ceux-là, ils sont quand même plus en danger. Mais encore une fois, ça dépend aussi de sur quel sol ils ont été installés, quelle pente. Donc il y a quand même énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc c'est pas toujours évident d'y voir clair, mais on voit bien quand même que les processus liés au changement climatique sont plus intenses dès que le système est plus artificialisé. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile à remettre en cause, quoi, cette question-là.
Tamou Zelou est chargé des services forestiers et ruraux à la Fédération nationale des entreprises des territoires. Nous l'avons rencontré aux assises de SOS Forêt.
Donc la Fédération nationale d'entrepreneurs des territoires est une fédération professionnelle de chefs d'entreprise de travaux, agricoles, forestiers et ruraux, qui sont des entreprises de milieu rural qui vendent des prestations de services, de travaux à des clients, pour l'exemple forestier, à des clients propriétaires forestiers privés et publics, gestionnaires forestiers privés ou publics et industriels du bois, des scieries, des papeteries. Et ces entrepreneurs de travaux réalisent deux grands types d'activités en forêt. Une activité de récolte, donc abattage et débardage des bois, et également une activité de sylviculture-reboisement, donc c'est tout ce qui est entretien des forêts et du reboisement, de plantation en général. Et ces entreprises-là utilisent soit des moyens mécanisés, donc des machines de bûcheronnage, des porteurs, des skidders, des tracteurs sylvicoles, soit des moyens manuels, comme des tronçonneuses, des débroussailleuses, ou des croissants divers et variés. Ces entrepreneurs-là ont en général un rayon d'activité de 100 km autour de leur siège social, et certains se développent sur des nouveaux marchés, comme le marché du bois énergie, que ce soit du bois bûche ou des plaquettes forestières, l'entretien de la desserte, et parfois même de la gestion forestière. Alors du coup, nous avons 7000 entreprises en France, qui, pour la moitié, sont des entreprises unipersonnelles, donc quantité uniquement pas chef d'entreprise, et l'autre moitié a en moyenne nationale 3-4 salariés, donc c'est plutôt des très petites entreprises, par contre qui ont des moyens qui sont plus ou moins importants. Donc les travailleurs manuels, voilà, une tronçonneuse et des broussailleuses, c'est assez simple. Ceux qui ont des abatteuses, des porteurs, sont des investissements qui coûtent entre 300 000 et 500 000 euros, ont une productivité très importante. Une machine de bûcheronnage, par exemple, ça fait la même production que 5, 6, voire 7 bûcherons. Donc on peut être à la fois petit, mais faire beaucoup de travail.
Ce qu'on appelle les abatteuses, c'est ça?
Exactement, les machines de bûcheronnage qui coupent un arbre, le façonnent, les branches, et selon le cahier des charges demandé par le client. Nous, on aborde la question climatique, alors le bois énergie ou le stockage de carbone, de différentes façons. On sait que la forêt est un atout pour la France, dans la transition écologique. La forêt capte du carbone, on séquestre du carbone dans les sols, dans les produits, dans les stockages, donc la forêt et les produits forestiers ont un rôle à jouer important. Et dans la question du changement climatique, nos entreprises qui sont tous les jours en forêt, s'aperçoivent que la forêt change, la forêt évolue, elle est plus ou moins maltraitée par endroits, liée à des phénomènes climatiques ou sanitaires, ou les deux. Prenons l'exemple de la calarose du frêne. Les frênes souffrent, donc que faisons-nous de ces peuplements-là ? Plus récemment, la crise des scolytes en Grand Est, liée à une sécheresse et une canicule. Quid de devenir des plantations qui sont effectuées ? Est-ce qu'elles passent l'été ou pas ? Donc on est vraiment au cœur de ces thématiques-là et on essaie de s'adapter au mieux avec, je l'avoue, plus de questions que de réponses. Ce qu'on perçoit le plus, c'est dans nos conditions de travail. Les entreprises de travaux forestiers sont tous les jours en forêt pour récolter des arbres qui ont été martelés, pour replanter, et on s'aperçoit que les hivers doux et pluvieux qu'on a connus ces dernières années impactaient notre travail. Nous avons des engins qui circulent à travers les différentes forêts, et ces engins-là font de fait des ornières sur les cloisonnements. Et ça peut choquer certaines personnes qui ne connaissent pas forcément la réalité du métier. Et en même temps, on doit pouvoir l'expliquer à ces mêmes personnes que des engins en forêt doivent évoluer parce que c'est la sécurité des opérateurs, c'est quand même la priorité. Sécurité de protection de l'environnement également. Et de ces hivers qui sont perturbés, qui sont moins froids, donc c'est là où il gèle moins, on doit couper des arbres, on doit récolter, il faut approvisionner les usines. Ce qui est logique. Et donc, du coup, on doit travailler dans des conditions qui nous sommes imposées. Et ça, c'est une première question. L'autre point, c'est quand nous reboisons, parce que les entreprises de travaux forestiers reboisent également, on coupe des arbres, mais on en replante. Quand les étés sont très chauds, avec des épisodes de canicule, et que les reboisements ne reprennent plus fin septembre, début octobre, que faisons-nous ? Comment faisons-nous ? Comment améliorons-nous les systèmes de plantation ? Comment est-ce qu'on gère les régénérations naturelles ? Quelles essences planter ? Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait 2, 3, 4 essences pour les parcelles. Maintenant, lesquelles il faut planter dans telles conditions ? Il y a beaucoup de questions. Il y a peu de réponses. Le secteur forestier est quand même assez petit par rapport à d'autres secteurs en termes de recherche, développement, innovation. Et ça nous impacte dans notre quotidien. Et notre enjeu à nous, c'est d'arriver à pouvoir travailler qualitativement à la fois sur la récolte et sur la plantation, de façon à ce que les propriétaires, gestionnaires industrie du bois puissent avoir des produits qui les intéressent sur des parcelles bien entretenues, de façon à ce qu'on consomme davantage de bois en France dans des produits de l'habitat, la santé, le luxe éventuellement. Et voilà, on aime tous le bois, on le préfère au plastique, au charbon, au pétrole, et on aime encore davantage le bois local.
La question des forêts et du climat est bien sûr aussi abordée par les institutions européennes à Bruxelles. Écoutons Kelsey Perlman de l'association Fern, basée dans la capitale belge.
Fern, c'est une organisation basée à Bruxelles. On a aussi un tout petit bureau en Angleterre aussi. Et là, on travaille sur les politiques européennes qui auront un impact sur les forêts. Que ça soit l'utilisation de la biomasse, des objectifs de stocker du carbone dans les forêts. On est là pour plaidoyer, pour protéger les forêts et les gens qui vivent à l'intérieur et autour.
Alors actuellement, on sent de plus en plus, bien sûr, la question du climat est ultra présent partout. Et on parle aussi beaucoup des forêts comme quelque chose d'extrêmement important, crucial, dans les questions de l'avenir climatique, en fait, avec le puits de carbone, etc. Donc, en fait, ce que je voudrais surtout savoir, c'est ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, jusqu'à quel point c'est même une compétence, parce que je crois que la forêt, par exemple, n'est pas vraiment une compétence européenne, mais quelle activité, quelle discussion existe, quelle directive, quelle mesure, etc., au niveau du climat, au niveau de l'Union européenne.
Je pense qu'il y a une division entre la conception de ce qui peut apporter la forêt dans la lutte contre le changement climatique. Dans la culture populaire, on va dire, là, normalement, on a une conception qui est assez simple, c'est protéger les forêts et ça va atténuer le changement climatique. Mais dans l'Union européenne, là, on parle plutôt des politiques qui vont baisser les émissions venant des autres secteurs. Donc, réduire les émissions venant des hydrocarburants. Et du coup, c'est dans cette perspective qu'on regarde les terres, les forêts. On pose la question de comment est-ce qu'on peut utiliser les forêts pour aider les autres secteurs à réduire leurs émissions. Donc, je trouve que c'est une logique qui ne va pas de soi. Et du coup, ça s'articule dans deux grandes politiques qui touchent, enfin deux grandes lois qui touchent aux forêts. Donc le premier, c'est avec un grand acronyme, mais ça s'appelle l'utilisation des terres, affectation des terres et la foresterie. Et donc là, c'est une loi qui vise à mesurer les émissions venant des forêts. Donc pour mesurer le CO2 qui sort et qui est absorbé par les forêts. Normalement, dans cette loi, on aimerait avoir un objectif pour augmenter le stockage de CO2 dans les forêts. Malheureusement, il n'y a pas cet objectif. On a seulement un objectif d'éviter que les terres ne deviennent pas émetteurs en CO2, qui serait catastrophique pour la planète si c'était le cas. Et puis à côté de ça, on a une loi sur les énergies renouvelables. La biomasse a été classifiée, donc c'était un choix politique, de la classifier en tant que neutre en carbone. Ça veut dire qu'après qu'on coupe l'arbre et on le brûle, on va replanter un arbre. Dans la tête des chercheurs, ça fait zéro carbone à la fin.
Quand tu dis chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que ce n'est pas vrai. Peut-être il faudrait dire les gens qui prennent les décisions au niveau de Bruxelles, finalement, non que...
Oui, et les économistes, tous ceux qui font des études de décarbonisation, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine des forêts. Oui, mais c'est vrai, il y a plein de chercheurs qui ont regardé ce cycle pour voir qu'est-ce qui se passe quand on coupe un arbre et on les brûle. Bah, en réalité, il y a des émissions de CO2 qui sont émises directement dans l'atmosphère. Et puis, par la suite, il n'y a pas forcément un suivi pour regarder qu'il y a une gestion appropriée par la suite, que les arbres vont être replantés. Donc, il y a plein de questions qui se posent, qui montrent les failles, on va dire, dans cette logique de neutralité carbone.
Là-dessus encore, je veux dire, c'est aussi une question de temps. Je veux dire, si on donne quelques siècles, il y a peut-être c'est vrai quoi, qu'il y a une certaine neutralité carbone. Mais le problème, c'est que d'abord, on n'a pas de temps, parce que les fameux bascules ou les accélérations climatiques, ça peut arriver très vite, donc une décennie ou deux. Quoi. Et par ça, est-ce qu'on va laisser les forêts tranquilles? Parce qu'il y a les pressions sur les forêts sont vraiment énormes.
En creusant un peu sur les hypothèses de la neutralité carbone, c'est vraiment cette question du temps. Premièrement, le temps qui repousse un arbre pour absorber le CO2 qui a été perdu, ça peut varier entre 10 ans jusqu'à jamais s'il n'y a pas de replantation d'arbres. Donc, on voit que le cycle n'est pas aussi net. C'est assez compliqué d'assurer la plantation, la suivi à long terme, une gestion durable, tout simplement, après l'usage de la biomasse. Et si on voit jusqu'à 2030 des projections qui vont accroître l'utilisation de la biomasse, ça se pose des grandes questions sur l'utilisation des terres, aménagement des terres, qu'est-ce que ça implique en termes d'usage d'eau, qu'est-ce que ça implique en termes d'émissions à court terme. Parce que s'il faut attendre 30 ans, 50 ans avant de voir une absorption de CO2 après les émissions en brûlant la biomasse, eh ben, on va rentrer dans une période d'emballement climatique où on ne peut plus se rattraper une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. On voit que oui, c'est une énergie renouvelable à long terme, mais la question climatique, c'est une question de plus en plus de court terme.
Pour comprendre un tout petit peu mieux cette histoire d'énergie renouvelable, il y a des directives. Donc, il y a des périodes. Donc, on a fait une directive il y a quelques années, jusqu'à 2020, avec un objectif d'une quantité d'énergie renouvelable dans le mix global d'énergie. Maintenant, on a passé à un stade de 2020 à 2030. Peut-être que vous pouvez expliquer ça un peu. Et ce qui me semble important, c'est que peu de gens savent, c'est que la part de biomasse dans le mix global d'énergie renouvelable actuellement est beaucoup plus importante qu'on pourrait imaginer, quoi.
Oui, exactement. Quand on pense aux énergies renouvelables, souvent on pense à l'énergie solaire, l'énergie éolienne, mais en réalité, la plupart des énergies renouvelables viennent de la biomasse Et la plupart de cette biomasse vient des forêts. Mais donc, c'est un constat, je pense, qui est très peu connu, même dans la société civile qui travaille sur ces problèmes de changement climatique. Et du coup, avec cette directive, on a un objectif d'énergie renouvelable dans le mix d'énergie globale dans un seul pays. Et si on voit qu'on accroît l'utilisation de la biomasse par rapport aux autres énergies renouvelables, on va rencontrer ce problème des émissions de CO2 à court terme. Tandis que si on appuie sur les éoliennes ou sur l'énergie solaire, là, il n'y a pas d'émissions de CO2 du tout. C'est purement renouvelable. Donc, on peut avoir une hiérarchie des énergies renouvelables où on voit vraiment l'énergie le moins efficace, qui est la biomasse.
Il y a aussi la question de ressources, non? Parce que je veux dire, moi, j'ai vu des... Même, je crois, la Commission européenne elle-même, elle a une fois calculé que si on... respecter les objectifs de 2020, hein. Je crois que c'était 20% donc d'énergie renouvelable dans le mix global, et qu'on avait toujours ces 60 ou 65%, je ne sais pas combien, de biomasse dans les énergies renouvelables, ben, et il faudrait utiliser tous les arbres coupés en Europe. En gros, pour l'énergie, on ne pouvait plus faire des tables, ni des maisons, ni des charpentes. C'est ça, non?
Oui, c'est ça. On utilise beaucoup trop des hydrocarburants, et ça ne peut pas être résolu par nos forêts. Donc d'abord, on a un problème de dégradation dans nos forêts partout dans le monde. En priorité, il faut les protéger, il faut les rendre plus résilients aux températures croissantes partout dans le monde. Ce n'est pas la priorité des forêts de résoudre le problème de réduction des émissions de CO2. Là, c'est une question de consommation d'énergie, c'est une question de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'optique utilisée pour les forêts en Europe n'est pas la bonne. Il faut penser à capter plus de carbone, à penser à la santé des forêts à long terme. Et là, ça nécessite tout un autre tas de législations qui va toucher sur l'adaptation des forêts et leur résilience, comme tu avais dit. Juste pour dire, je pense qu'il n'y a pas une stratégie claire par rapport aux forêts. Donc, on a des objectifs qui ne sont pas contraignants. Avec des objectifs de biodiversité pour préserver une certaine partie de la nature, tandis qu'au même temps, on a des politiques qui poussent à l'utilisation de la biomasse et forcément, ça va avoir un impact sur les forêts. Après, oui, il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de reboisement. En réalité, la couverture forestière s'agrandit depuis des années, mais au même temps, il faut faire le constat que la santé des écosystèmes est vraiment fragile et ça se dégrade. Et du coup, on a cette question de si on plante plus d'arbres, est-ce que ça va résoudre le problème de santé à long terme? Non. En réalité, la plupart des forêts en France sont sous une forme de gestion ou une autre. Et là, c'est une question de est-ce qu'on est en train de gérer d'une façon durable nos forêts? Et je pense que la réponse pour l'instant, c'est non.
Quand tu dis qu'il y a une augmentation de la surface forestière, là, tu parlais aussi au niveau planétaire ou au niveau français?
Au niveau de l'Europe. Donc, il y a des programmes d'afforestation partout. Je ne peux pas dire que je connais la situation en France, mais il y a des programmes d'afforestation, par exemple, en République tchèque ou en Irlande, où là, c'est vraiment des plantations de monoculture qui est susceptible à des infestations d'insectes, qui est vraiment peu résilient et qui ne s'attaque pas aux problèmes de gestion comme les coupes rases, qui va vraiment avoir un impact sur la biodiversité. Donc, c'est pour ça, dans la discussion autour du climat, il ne faut pas se séparer biodiversité et atténuation du changement climatique. Les deux sont... complètement lié, et c'est fort temps qu'on adresse ces deux problèmes ensemble avec les législations cohérentes au niveau de l'Union européenne.
Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur les forêts par rapport à Bruxelles et compagnie que tu trouves important de mentionner?
Juste qu'on va traiter bientôt le deuxième package climatique Donc il y a toute cette législation sur les énergies renouvelables, la question des objectifs climatiques pour les forêts. On va retraiter toutes ces problématiques avec le nouveau gouvernement européen. Donc toutes les questions qu'on a eues sur la neutralité carbone, la santé des forêts, ces questions vont se poser encore et on a une opportunité de changer de direction, d'aller plus dans le bon sens et de réunir les questions de biodiversité et climat. Donc on a une grande opportunité devant nous d'améliorer la situation et de mettre en lumière l'importance d'une gestion durable à long terme.
Lors des assises nationales de SOS Forêt, Gaëtan Dubus, docteur en sciences, expert forestier indépendant dans l'Aude et initiateur du réseau pour les alternatives forestières, a présenté son rapport « Gestion forestière et changement climatique » qui sera publié en décembre par les associations Canopée et Fern. L'un des objectifs principaux de ce rapport est d'apporter une réponse scientifique et argumentée à une étude plutôt inquiétante, publiée par l'Institut national de recherche agronomique en juin 2017. Gaëtan Dubus.
Alors dans cette étude de l'INRA qui fait un peu autorité aujourd'hui dans les pouvoirs publics, qui plaît beaucoup aux pouvoirs publics et qui plaît bien moins évidemment aux associations environnementalistes et qui ne plaît pas non plus à ProSilva et qui ne me plaît pas du tout, il y a trois scénarios. Il y a un scénario qu'ils appellent extensification. C'est-à-dire, en gros, les fonctions écologiques et sociales de la forêt prennent de l'ampleur, la société demande ça, etc. Donc on diminue progressivement les prélèvements, on stocke plus de bois en forêt, on a des petites filières à gauche, à droite, mais c'est pas industrialisé, quoi. Il y a un scénario dynamique territorial, c'est-à-dire que chaque territoire choisit un peu dans quel sens il va. C'est un peu désorganisé, chacun fait sa filière à lui, quoi, décentralisé. Et puis, il y a un scénario intensification qui est piloté par une volonté publique, nationale, claire, subventionnée, organisée, orientée, pilotée par l'État, et qui est basée justement sur les deux principes. Il y a aussi la transition énergétique, c'est-à-dire on a besoin de bois, hein, absolument, bois matériaux, bois énergie, et il faut réagir vite au changement climatique. Ce qui est contestable, c'est comment ça se traduit en chiffres, donc la quantité réelle de bois et la conséquence de ce chiffre-là sur les écosystèmes et les modalités qui sont inventées pour augmenter la production et la récolte. Et là, c'est une vision du changement climatique qui est extrêmement pessimiste. Alors, c'est vrai qu'on voit des forêts mourir. Mais moi, je suis dans une région qui est très, très soumise au changement climatique. Hein. C'est l'Aude, donc c'est un département méditerranéen. J'ai beaucoup de plantations ou de forêts à basse altitude. Je les vois dépérir, vraiment, ça fait mal, c'est dur à voir. Mais au fur et à mesure, je me suis habitué à dire, en fait, il y a quand même, et puis au fur et à mesure des années, je les suis, parce que ça demande beaucoup de suivi. Je me suis habitué à dire, déjà, à repérer ce qui est vraiment condamné de ce qui ne l'est pas, et à chercher les signes d'espoir. Et dans chaque peuplement, moi, j'estime qu'il y a souvent plus de signes d'espoir qu'on le croit. Et moi, j'hésite pas à parler d'une forme de pollution de l'imaginaire quand on croit d'avance, quand on s'imagine d'avance que de toute façon, ça va mourir. Et c'est un peu ce que fait l'INRA. C'est-à-dire qu'elle se met dans un scénario de dépérissement massif de la forêt française et elle dit de toute façon, puisque ce dépérissement va s'accélérer et pour tous les peuplements, il faut absolument qu'on anticipe ça. Et qu'on remplace les forêts qui vont mourir, même si on ne les voit pas mourir quelque part, qu'on les remplace par des plantations d'essence choisies, adaptées, etc., avec la croyance quand même assez irrationnelle que l'homme est capable, lui, de sélectionner des provenances génétiques, des essences, etc., dont il est sûr que ça ne dépérira pas autant que les forêts en place. Et c'est marrant parce que c'est présenté comme un raisonnement rationnel, sauf que moi qui me suis amusé à le décortiquer, j'y trouve plein d'irrationnels, quoi, plein d'irrationnels. Et des axiomes, des fondamentaux, des hypothèses qu'aujourd'hui, même des chercheurs, j'ai eu des dialogues avec des chercheurs pointus sur la question, disent il n'y a pas de littérature là-dessus, il n'y a pas de consensus scientifique. Donc on est sur des vides scientifiques. Moi aussi, hein, moi aussi, sur des difficultés, on bute sur des difficultés où finalement, c'est C'est, finalement, c'est l'irrationnel qui s'exprime, quoi. C'est une forme de j'y crois ou j'y crois pas. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Et si on s'imagine que tout va crever, ben forcément, il faut tout replanter.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une espèce de posture, peut-être trop classique de certains cercles scientifiques, je ne sais pas, que finalement l'homme est capable et tout puissant, enfin capable de décider et que la nature, nettement moins, enfin quelque part, c'est que de ne pas croire que la nature peut être résiliente, qui peut réagir, qui peut trouver des moyens de trouver la bonne solution quelque part, et que l'homme a la capacité d'imposer quelque chose qui va être qui va tout résoudre.
Oui, alors ça, moi, je le verrais plutôt dans la façon dont les forestiers arrivent à suivre, à accepter ces scénarios et à les suivre. C'est-à-dire, il y a une idée qui a été installée dans la tête des forestiers, et qui, pas tous, heureusement, mais qui est assez répandue, c'est que la forêt a besoin de l'homme et a besoin en particulier du sylviculteur. Et que si le sylviculteur n'intervient pas en coupant des arbres, en plantant, de manière régulière, la forêt va mourir et voilà, l'écosystème va s'arrêter, quoi. C'est complètement faux, évidemment, c'est complètement faux. L'écosystème va passer par des stades de mortalité, va passer par des difficultés, va passer par des crises, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un écosystème naturel, et la forêt, c'est évidemment un écosystème absolument naturel, fantastique, un modèle de ce point de vue-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort fait partie de la vie, c'est-à-dire que les crises, c'est comme chez nous, les maladies, ça nous renforce, quoi. Et il faut comprendre que c'est juste une histoire d'échelle. Une échelle qui dépasse largement l'échelle humaine. Donc quand on voit dépérir une forêt, ça peut être une phase temporaire. Voilà. Et ça peut se passer sur des grandes surfaces. Au Canada, on a des feux qui parcourent des centaines, parfois des milliers d'hectares. Et ça fait des millénaires que ça se passe comme ça. Et la forêt se régénère après les feux, quoi.
Même il y a des arbres, par exemple le pin de Lep, par exemple, qui a besoin du feu pour que les semences... Comment ça fonctionne ? Germes.
Enfin, pas germes, mais déjà qu'elles sortent du cône, hein, que le cône éclate. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les forêts sont arrivées aujourd'hui à ce qu'elles sont, c'est parce qu'il y a eu des mutations, il y a eu des nouveaux patrimoines génétiques, des nouvelles espèces, etc., qui sont arrivées. Et tout ça a été sélectionné par, justement, des processus naturels, par ce qu'on appelle des perturbations. Voilà. Et ce sont les perturbations qui renforcent les écosystèmes. Ce sont les perturbations qui permettent la sélection génétique, qui permettent l'évolution génétique. C'est ce qu'on appelle la coévolution entre le milieu biotique, le sol, le climat, les perturbations et la vie. Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, ces scénarios dynamiques ou intensifs, ça représente une augmentation considérable de la récolte, mais aussi une transformation profonde des forêts. Donc, des forêts qui risquent de disparaître, des forêts actuelles, et remplacées par des plantations. Ce n'est pas que des études qui restent dans des cercles scientifiques. Hein. Il y a quand même des instances de décision au niveau de la filière forêt-bois, avec des plans régionaux pour l'avenir et qui donnent les chiffres pour la récolte de bois pour les années à venir. Et il y a aussi des décisions ou des options au niveau du gouvernement qui donnent l'impression qu'ils suivent donc plutôt ce troisième scénario le plus intensif.
Alors effectivement, c'est le ministère de l'Agriculture, mais surtout le ministère de la Transition écologique, qui aujourd'hui établit ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone et qui va devoir s'articuler avec le plan national forêt-bois qui après se décline en plans régionaux de la forêt du bois. Bon. Alors bien sûr qu'il y a une consultation régionale, locale, etc. Mais il y a quand même une orientation à partir du moment où si on décide là demain qu'il faut récolter... dans 30 ans, donc en 2050, il faut récolter 90 ou 95 millions de mètres cubes, eh bien la pression va être mise sur les régions et sur les départements, etc., sur la forêt publique en premier, parce que c'est plus facile à piloter, et puis après sur la CDC, Caisse des dépôts et consignations, qui gère beaucoup de forêts privées, la pression va être mise pour prélever ce bois, quoi. Et donc nous, on sera un petit peu entourés, on sera cadré par ces directives-là et on risque concrètement dans des forêts privées aussi d'être incité fortement, voire par des incitants fiscaux, par des avantages, d'être incité à faire des plans de gestion qui intensifs, pareil quoi. Voilà. Donc dans ce scénario, il y a des forêts qui seront dédiées au bois énergie. Il y a des taillis à courte rotation, par exemple. C'est des forêts qu'on récolte très souvent. Hein, on coupe très souvent pour le bois énergie. Il y a des plantations avec des essences. Le programme de plantation, il est basé sur 10 essences de résineux. Le peuplier et 10 essences de résineux, dont certaines qui sont d'ailleurs très très fragiles sur le plan climatique. C'est absurde. Ils veulent remettre Abies grandis, le sapin de Vancouver, et tout le monde l'a coupé, quoi, parce qu'il crève. Et puis c'est Atsitka, enfin c'est pareil. Donc ça veut dire que s'ils imaginent le remettre, c'est qu'ils veulent faire des rotations très très courtes, pour surtout, quand il a 10, 15, 20 ans, le couper avant qu'il y ait le moindre signe de dépérissement, c'est évident.
Mais lors des assises, toi et d'autres, ils ont beaucoup insisté sur un autre aspect qu'on n'a pas vraiment mentionné jusqu'à présent, c'est la fertilité des sols. Et là, si on a des plantations qu'on remplace tous les 20 ans, ou je ne sais pas combien, mais pour faire la rotation rapide, ben, ça risque d'épuiser les sols, non ?
C'est tout à fait démontré. Un bois, plus il est gros en diamètre et moins proportionnellement il contient d'éléments minéraux. D'accord ? Donc plus un arbre vieillit, et plus il est efficace sur le plan minéral, et moins il y a d'éléments minéraux dans son bois. Voilà. Donc ça veut dire que si je coupe des arbres jeunes, et que je recoupe des arbres jeunes très souvent comme le système du taillis, ou comme une plantation, une futaie, mais que je replante tous les 20-30 ans, je vais beaucoup plus appauvrir le sol que si je fais des révolutions, enfin des rotations très longues, voyez ?
Moi, j'ai entendu ça un peu expliqué autrement. Quasi toutes les essences, peut-être c'est des périodes différentes, mais pendant la première moitié, je ne sais pas quoi, de leur vie, ils pompent en quelque sorte du sol, de la roche, enfin, etc. Et ensuite, il y a une sorte de bascule et ils commencent à redonner au sol de la richesse. Donc le problème, c'est que de plus en plus, on coupe jeune et on ne permet pas cette deuxième phase.
Oui. Alors, un arbre, il continue à pomper sans arrêt des éléments minéraux. Seulement, c'est le bilan net qui compte, c'est-à-dire qu'il restitue aussi des éléments minéraux par ce qu'on appelle les exsudats racinaires, donc tout ce qui est autour des racines, mais aussi par évidemment la chute des feuilles, la chute des rameaux, une partie des écorces qui tombent, ce qu'on appelle des pluviolessivas. Donc, il y a la pluie qui dégouline sur le tronc, ça réémet aussi des éléments minéraux. Donc, tout ça fait qu'un arbre âgé, effectivement, il peut avoir... Alors ça c'est selon les essences, plein de conditions, etc. Il peut avoir un bilan positif en termes de cycle biogéochimique, donc la richesse des sols, quoi. Un arbre jeune, absolument pas. C'est évident. Alors bien sûr que si on laisse l'arbre évoluer librement, mourir, se décomposer, le bilan il est bon, il est positif, puisque l'arbre il pompe dans la roche, donc il remet à la surface des éléments minéraux qui sont en profondeur. Donc si je ne récolte pas l'arbre, dans tous les cas c'est bon, c'est positif. Hein. C'est comme ça qu'on a des sols excellents, très très fertiles en forêt. Si j'enlève, j'exporte du bois, j'exporte des éléments minéraux, et là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, si je n'exporte que, comme je dis, que l'agrume, hein, que le pied de l'arbre, que du gros bois, et dans des vieux bois, il n'y aura pas de problème. Si par contre, j'exporte la totalité de l'arbre, c'est-à-dire jusqu'aux feuilles, jusqu'aux fins rameaux, et pire encore, si j'enlève les racines, et si j'enlève ces arbres-là, je les enlève jeunes systématiquement, alors là, j'exporte beaucoup, beaucoup d'éléments minéraux. Donc dans ces scénarios, là le rapport, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, il y a une grosse question qui n'apparaît jamais en fait clairement dans le scénario, c'est finalement le bois, qu'est-ce qu'on prélève ? Est-ce que c'est que le tronc ? Ou est-ce que c'est les branches ? Et jusqu'où les branches ? Est-ce que c'est 15 cm, 7 cm, 0 cm ? Est-ce que j'enlève les racines ou pas ? Et ça, pour la fertilité du sol, c'est fondamental de définir, de savoir qu'est-ce qu'on prélève exactement.
Oui, il faut quand même juste rappeler que sur le plateau de Mille Vaches en Limousin, il y a un projet qui n'est pas encore réalisé, mais programmé pour faire des pellets avec des souches, précisément, surtout avec des souches et avec des ce qu'on appelle les rémanents, quoi, les branchages, etc.
Oui, parce que alors le drame dans cette histoire, si vous voulez, c'est que la société, les gens se sont tellement éloignés de la forêt, du monde rural et du travail manuel en forêt, quoi, que pour eux, les branches et même les souches, ça constitue un déchet, quoi. Ils ne comprennent pas pourquoi on les laisse comme ça en forêt, c'est du gaspillage, c'est un déchet. Alors que, en fait, en forêt, c'est comme le fumier des vaches, si vous voulez, c'est pas un déchet, c'est l'essentiel. Et bien en forêt, les branches, c'est pareil, quoi. C'est pas un déchet, c'est l'essentiel. Donc, si on arrive à faire passer dans la société l'idée, et c'est bien sûr ce que certaines personnes font, essayent de faire, l'idée que l'essentiel en forêt, c'est de ne pas gaspiller les déchets, et c'est de planter, eh bien on façonne les esprits des gens à accepter la destruction du fonctionnement du vivant, en fait. Un aspect dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est quand même la biodiversité. Les scénarios intensifs, même si je dis je gère toutes les forêts gérables, hein, c'est-à-dire celles qui ne sont pas sur des pentes telles qu'on n'arrive pas à marcher, voilà, toutes les forêts gérables, et dans ces forêts, je ne récolte que la production biologique, donc l'accroissement. Si je fais ça, parce que j'ai fait ce calcul-là dans le rapport aussi, je pourrais enlever 95 millions de mètres cubes par an. Donc ça correspond au scénario actuel, en fait, intensif. Sauf que si je fais ça, le scénario, le rapport le montre quand même, en fait, on aurait quasiment plus de bois mort en forêt et on exporte la quasi-totalité des branches. Et là, j'ai parlé de la fertilité, mais aussi il y a une dimension essentielle, c'est que si j'ai plus de bois mort, il y a une bonne partie de la biodiversité qui sera amputée. Donc c'est 40%, je crois, des espèces qui dépendent du bois mort en forêt, directement ou indirectement. Et ces espèces-là, elles sont essentielles pour la fertilité du sol, bien entendu, mais aussi pour la régulation des maladies, des ravageurs, etc. Donc en dehors de leur aspect patrimonial, c'est-à-dire on a envie de garder ces espèces parce qu'elles ont droit d'exister tout simplement, quoi, comme nous, hein. Elles ont droit d'exister. Donc il y a des espèces menacées qu'on perd chaque année, enfin qu'on perd régulièrement aussi à cause de l'exploitation du bois mort, quoi. Et donc il faut mettre dans les scénarios un maintien de bois mort suffisant, il faut définir un seuil, c'était pas facile du tout, savoir est-ce que c'est 20, 30, 50 mètres cubes par hectare, si vous voulez, parce que dans les forêts, c'est 50, 100, 150, les forêts naturelles. Hein. C'est vraiment l'équilibre à trouver entre les besoins de l'homme et les besoins de l'écosystème pour qu'il continue à vivre, quoi. C'est pour ça que c'est passionnant, ces histoires. On est vraiment un carrefour, on dit, ok, on ne pourra plus vivre comme on l'a vécu, c'est pas possible, on ne pourra plus. Donc, qu'est-ce qui est compatible avec la nature, quoi ?
Je viens de parler avec un forestier de l'ONF dans les Ardennes. Et c'est lui qui m'a parlé de ces grands espaces forestiers, enfin des épicéas qui, de 100 hectares jusqu'à 150, enfin différentes zones, mais vraiment considérables. Et c'est les scolytes. Alors, il me semble que ça, c'est lié à cette histoire de bois mort, enfin une espèce de biodiversité. Parce que si on a ce que nous, on appelait un désert boisé, avec aucune quasi-biodiversité, mais il n'y a rien qui peut se développer, qui peut contrer ces scolytes, quoi.
Ben, l'épicéa, c'est pas un arbre plus mauvais que les autres. Hein. L'épicéa, dans les forêts mélangées, il est magnifique, il y a une régulation. Moi, j'avais fait une comparaison quand j'avais fait ma thèse sur ces questions-là. On a comparé plusieurs fois des forêts gérées et non gérées l'une à côté de l'autre, et on remarque qu'en fait, le cortège d'espèces est assez voisin. Ce qui est différent, c'est la façon dont les espèces sont régulées, dans les équilibres proie-prédateurs, enfin prédateurs-proie. Et les scolytes en particulier, il y en a dans les forêts naturelles, mais on va dire que la réaction, quand le scolyte commence à prendre de l'importance, hein, que la population augmente, la réaction est plus rapide. Voilà. Et ce qui se passe dans les monocultures, c'est vraiment ça, c'est que avant que les parasites et les parasitoïdes, qu'on appelle exactement, et les prédateurs du scolyte, de Lips typographus, principalement, avant qu'ils parviennent à réguler cet insecte-là, ravageur, ça met très longtemps. Parce qu'on est dans une situation de déséquilibre. Parce qu'on a planté des épicéas à trop basse altitude, parce qu'on les a plantés sur des terres agricoles où il n'y a aucune histoire forestière. On est sorti de la forêt, donc ça déséquilibre très fortement l'écosystème. Et parce qu'il n'y a plus que de l'épicéa.
Pour quelqu'un qui est forestier comme moi, mais qui ne suit pas non plus un professionnel au quotidien dans la forêt.
Vincent Magnier.
C'est pas évident de trouver un positionnement. Enfin, tout le monde est en fort questionnement sur tout ça. Alors, il y en a qui sont plus avancés dans la réflexion et qui pensent, qui proposent des solutions un peu fortes. D'autres qui veulent être plutôt dans l'observation. Pour l'instant, je suis quand même plutôt de ce camp-là, de dire... observons les choses et avant de vouloir tout encore réglementer, régenter et finalement dire le climat c'est la faute de l'homme, donc c'est à l'homme de trouver les solutions et donc on va encore orienter tout parce qu'on sait avec nos modèles, nos calculs, que comment ça va évoluer. Bon, on a quand même encore un paquet d'incertitudes sur la suite des événements et on a quand même une assez mauvaise idée de la capacité de résilience et de réaction des écosystèmes. Alors, en plus, ça va être très très divers. Hein, c'est encore une fois selon les régions, entre la capacité des sols à garder de l'eau ou pas, entre la fertilité des sols, entre les régions qui sont polluées, dont les sols sont pollués, par exemple en Île-de-France, on sait que massivement, les sols sont pollués aux métaux lourds liés à l'hyperdensité et la circulation. À d'autres endroits où le degré de naturalité et de fertilité naturelle est meilleur, on n'aura pas les mêmes réactions. Donc, du coup, quand on parle de migration assistée des espèces pour anticiper le changement et donc anticiper la disparition du hêtre ou telle autre espèce, enfin, j'ai très peur qu'on aille encore vers un excès de simplification, un excès de zèle, et que finalement, je suis un peu persuadé que là où on observera avant de vouloir encore faire, finalement, c'est peut-être là encore où la nature et où les peuplements forestiers s'en sortiront le mieux. C'est peut-être un excès d'optimisme de ma part, mais voilà. Ce que je sais, c'est que la nature est quand même une force et une ingéniosité qu'on n'a pas encore égalé, quoi. Et que donc, on est quand même toujours encore très présomptueux de vouloir, encore une fois, régler un problème, certes, qu'on a créé, mais en se croyant plus malin que les écosystèmes. Donc, voilà, moi, c'est ça ma posture. Et je pense qu'on est encore, on a vraiment encore un besoin d'observation d'une part des milieux forestiers, de compréhension de ce qui se fait à plusieurs échelles et aussi aux échelles vraiment des peuplements et des massifs. Hein. Et on sait bien que de toute façon, l'espèce miracle, elle n'existe pas, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains de l'intensif de la filière bois. Et donc, il faut faire avec l'héritage du passé et composer et observer. Et puis, on fera éventuellement quelques enrichissements d'espèces qui nous semblent peut-être plus adéquates, déjà pas de manière uniforme. Il y a des endroits où ça pourrait tenter, des endroits où finalement ça résiste mieux et où on pourra peut-être se pratiquer à des éclaircies pour aider les peuplements en place à être plus résistants face au manque d'eau. Voilà, moi je serais dans la modération et l'observation et la prudence par rapport à tout ça. Mais bon, encore une fois, ce sujet du climat est tellement complexe que je ne me prétends pas être aussi affûté que d'autres sur les scénarios et sur ce qui va advenir, mais on voit juste qu'on est quand même tous dans le grand blanc et la page blanche de savoir ce qui va advenir pour les forêts et pour du coup la vie, autant des êtres vivants qui vivent en forêt ailleurs que pour l'humain, hein. On sait pas bien. Alors, parce qu'on parle souvent de 2050, mais 2050 c'est demain, mais quid en 2100 C'est dur de le dire, quoi.
Lors de l'assemblée générale du réseau pour les alternatives forestières, on était à Besançon et on a fait un tour de forêt. Et là, avec des forestiers de l'ONF qui connaissaient bien ce coin, et en fait, ils ont dit que c'était un secteur de peut-être 10 hectares ou peut-être même moins. Et ils ont dit qu'il y avait, je crois que c'était 14, ils avaient identifié au moins 14 zones différentes là, à cause du sol ou l'inclination, enfin je ne sais pas quoi. Et ils ont dit qu'au fond, il faudrait travailler chacun de ces 14 différemment. Donc c'est un peu ce que tu dis. Mais est-ce que ce n'est pas lié à un problème, une perte de culture forestière, une perte de capacité d'observation, de connaissance, disons, multigénérationnelle presque, de comment un massif agit, quoi, réagit ?
Oui, on peut parler de perte de savoir-faire et de connaissance. Je pense qu'il y a ça, mais qu'on pourrait retrouver facilement ça, pour autant que l'économique et la pression des actionnaires et du marché du bois et de la filière nous laissent le temps, quoi. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est que on simplifie tout à l'extrême par manque de temps. On donne pas le temps aux gens de se former, pas le temps aux gens de comprendre. Il faut que le business aille vite, donc il faut faire des choses simples. Il faut produire trois espèces de plants, pas 15. Il faut il faut planter et pas attendre que la nature fasse son œuvre. Voilà, c'est pour moi le donnée majeure, c'est laisser le temps au temps et ne pas céder à la panique de l'urgence du climat, tout ça. On dit oh là là, il faut aller vite. Et non, je pense qu'au contraire, il faut freiner, se donner le temps d'observer, se donner le temps effectivement de se former, de devenir plus pointu et de retrouver, si on les a perdus, les compétences en matière de pédologie, donc de science des sols, en matière d'observation des problèmes sanitaires des arbres, parce que c'est pareil, là, il y a des nouveaux problèmes sanitaires des arbres que plein de gens ne connaissent pas, et donc observer ça, qu'est-ce qui se passe, et comprendre les phénomènes à l'œuvre et les interactions, par exemple, avec les tout ce qui est insectes, des composeurs du bois, les scolites, tout ça, voir... dans quel cas c'est grave, dans quel cas finalement on peut laisser faire et peut-être que les natures retrouvent un équilibre sans que l'homme intervienne. Voilà, il y a tout ça qui est là et on est quand même souvent dans l'interventionnisme, dans la précipitation par rapport au temps long de la forêt, au temps long des successions écologiques, au temps long de la régénération des milieux. En plus, on est dans la société industrielle ou post-industrielle, avec même si on est en forêt, la forêt a aussi subi les pressions liées à la pollution de l'eau, de l'air, de tout ça. Donc les écosystèmes sont un peu moins vigous qu'avant. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Et ça peut prendre encore un peu plus de temps. Donc, mais sur le savoir-faire, et je pense qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut. Et on a même plus avec les capacités des ordinateurs, tout ça. Si on les utilise à bon escient et pas juste pour faire du business, on peut trouver les solutions.
Il faut éviter peut-être les recettes magiques comme bois énergie pour remplacer le charbon et à une échelle massive comme si c'était la réponse, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Moi, ça me fait toujours frémir les recettes magiques. On a besoin dans l'avenir de donner de l'espoir aux gens, mais il faut pas non plus qu'on leur vende de faux rêves, quoi, et des choses qui sont fausses. Donc, on a besoin de faire mieux comprendre aux gens comment fonctionne l'écosystème, comment fonctionne la nature, comment les forêts vont trouver les solutions déjà par elles-mêmes pour résister à ce qui arrive et permettre aux gens d'être rassurés sur ce point-là pour les empêcher de céder à la panique et pour les empêcher de faire finalement plus de bêtises en voulant bien faire que si on n'avait rien fait, quoi. Ça, pour moi, c'est un point vraiment fondamental, quoi.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose à réfléchir, il y a quand même un énorme intérêt, et même plus qu'intérêt, vraiment inquiétude profonde chez beaucoup de jeunes par rapport à leur avenir avec ce qui se passe avec le climat. Et c'est peut-être un potentiel intéressant par rapport aux forêts. Parce que si on arrive à ce que peut-être ils comprennent qu'au-delà de manifester, ce qui est très bien, mais peut-être s'impliquer, en fait, il faudrait presque un retour vers la forêt, comme on a eu presque un retour à la terre. Mais plus de gens qui s'impliquent, même localement, et qui développent des activités, etc., pour connaître et accompagner tout ça, quoi.
Oui, ça c'est aujourd'hui on a ça c'est le côté positif aussi des problématiques qu'on rencontre en forêt tant liées au changement climatique que liées à l'hyper-industrialisation, intensification de la filière bois, c'est qu'on a de plus en plus de gens et de groupes qui voient les problèmes et qui commencent à les comprendre, à les percevoir, et qui veulent effectivement, de même qu'on a eu ce mouvement vers l'agriculture depuis pas mal d'années maintenant, on commence à avoir ce mouvement qui s'opère vers les forêts, avec un regain d'intérêt, avec une envie d'aller en forêt, de comprendre les forêts, de travailler en forêt, d'acheter de la forêt. Tout ça ça émerge dans plein de territoires et ça c'est chouette et je pense qu'il faut qu'on accompagne et qu'on aide ce mouvement là et du coup ça va aussi donner les pistes pour à la fois rapprocher les citoyens des forestiers et donner plus de soutien aux forestiers pour éviter les bêtises et aller répondre aux attentes à la fois de la société et aux besoins que nos forêts ont d'attention et de plus de moyens pour bien faire aussi, quoi.
Pour conclure, Gaëtan Dubus nous explique à quoi son rapport gestion forestière et changement climatique pourrait servir.
J'ai dit de suite oui à Sylvain Angeran là, et à Kelsey, Ferne et Canopée. Pour ce rapport déjà, parce que le rapport de l'INRA et les orientations actuelles me font très peur, quoi. Donc j'avais envie de participer à donner une autre vision. Par contre, j'ai de suite aussi pensé que ma position, elle était de rester dans une analyse scientifique, tu vois, un fondement sur lequel les réseaux associatifs et militants pourraient s'appuyer. Et donc moi, je fais quand même attention de distinguer cette fonction pour rester un peu froid. C'est un peu bizarre à dire, mais rester froid, même si évidemment j'ai des convictions très très fortes et que j'ai envie que Canopée et Ferne arrivent à défendre nos points de vue communs, mais je reste trop froid au sens où à chaque fois qu'on va dire quelque chose, je vais essayer de voir si scientifiquement ça tient la route, tu vois, si on a de la littérature, consulter des gens, réfléchir, etc. Voilà. Donc ce rapport, moi, je l'ai conçu comme ça. Je l'ai conçu comme ça pour que ça soit une base argumentaire. Voilà. Ensuite, ce qu'eux vont en faire, et bien sûr qu'on sera ensemble, mais ce qu'ils vont en faire, c'est qu'ils vont le traduire en plaidoyer, faire un document plus simple, plus incisif, qui dit voilà, nos conclusions c'est ça, nous on défend ça comme vision, au niveau du gouvernement français, donc des ministères, et au niveau de l'Europe aussi, parce que l'Europe a besoin de, donc Ferne, hein, c'est le pendant européen de Canopée pour la France, on va dire, Ferne a besoin d'harmoniser les points de vue des différents pays, quoi, des ONG des différents pays, pour avoir une vision européenne. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire attention, 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 les programmes d'augmentation de récolte de biomasse, c'est dangereux. Donc il faut plutôt partir des territoires, si tu veux, dans chaque territoire, dire qu'est-ce qui est raisonnable pour mon territoire à moi, pour mes forêts à moi. Donc on pourrait utiliser l'outil que j'ai fait là de calcul pour dire dans chaque territoire qu'est-ce qui colle avec mes forêts, quoi, pour ne pas les foutre en l'air. Donc il doit y avoir un aller-retour entre Europe, France et territoires locaux, quoi. Moi, j'ai vraiment envie que les gens s'approprient ce rapport, même qu'un jour, peut-être, on ait une espèce d'outil de calcul commun que tout le monde comprenne. Et comme ça, chacun dit « Ah ben moi, dans mon coin, j'ai calculé le truc, ça donne ça. » Puis l'autre, il dit « Ah, mais moi, j'ai calculé ça. Tiens, qu'est-ce que t'en penses ?» Et voilà, un outil de dialogue, quoi. Parce qu'en fait, les mathématiques, moi, j'aime bien ça. Je suis matheux, j'aime bien. Et c'est juste une expression de l'intuition, quoi. C'est important de dire que tout le monde peut comprendre, en fait.
C'était Forêt vivante ou désert boisé, une série de 3 émissions de Radio Zinzine sur la relation entre les forêts et le climat. C'était la deuxième partie. Toutes les musiques qui ont accompagné cette émission sont du groupe polonais Sarakina. Si vous souhaitez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org.